Bonjour à tous. À la une ce matin, le Venezuela va-t-il basculer? Nicolas Maduro vit-il ses dernières heures de président bolivarien à Caracas ou réussira-t-il à mater le soulèvement de l'opposition comme il a toujours réussi à le faire jusqu'à présent? Hier, le jeune président de l'Assemblée s'est proclamé président de la République à la faveur de manifestations monstres et du soutien de Donald Trump. Récit et analyse dans un instant. Monsieur le Président, allez rencontrer les Français dans ce journal. Laurent Wauquiez nous explique ce qu'il va dire à Emmanuel Macron, qu'il rencontrera pour la première fois à Valence aujourd'hui. Et à 8h20, un autre patron de l'opposition dans ce studio.
Oui, il s'agit d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application mobile France Inter pour dialoguer avec lui.
À la une également, supprimer complètement l'ISF, c'est le débat version 16e arrondissement de Paris. Nous y étions. Carlos Ghosn, qui démissionne avant d'être officiellement débarqué de chez Renault aujourd'hui. L'extrême violence de vegan anti-élevage contre la présidente des agriculteurs de la FNSEA et un joueur prometteur et singulier sur les courts de Melbourne, aujourd'hui le moderne Tsitsipas face à l'ancien Nadal en demi-finale.
France Inter.
C'est un pays ruiné dont l'inflation atteindra 10 millions de pourcents cette année selon le FMI, dont les magasins d'alimentation et les pharmacies sont vides, dont les habitants prennent massivement les routes de l'exil, 2,5 millions depuis 3 ans. Ce pays, c'est la République bolivarienne de Nicolas Maduro, le Venezuela. Manifestation monstre là-bas hier à l'appel de l'opposition et proclamation du président du Parlement, Juan Guaido.
Je jure d'assumer formellement les compétences de l'exécutif national comme président en exercice du Venezuela.
Juan Guaido, 34 ans, visage de l'espoir désormais pour les millions d'opposants à Nicolas Maduro, dont la réélection en mai dernier est massivement contestée. Bonjour Olivier Poujade.
Bonjour Florence.
Ce matin, le Venezuela compte donc 2 présidents et c'est l'armée qui va faire toute la différence. Pour l'instant, officiellement, les militaires continuent à soutenir Maduro, Olivier.
Oui, ce sera sans aucun doute la clé dans les jours qui viennent. Nicolas Maduro bénéficie effectivement du soutien officiel de la garde nationale bolivarienne qui semble avoir décidé de lui rester fidèle. Maduro est aussi soutenu par le cartel des soleils, une poignée de généraux, une sorte de garde rapprochée du pouvoir en place, mais difficile de dire si le rapport de force restera en leur faveur. C'est toute l'interrogation de Paola Vasquez, elle est professeure à l'EHESS et spécialiste du Venezuela.
Il peut tenir dans ces conditions s'il utilise un moyen extrême de mobiliser les forces qu'il a encore avec lui. Tous les Vénézuéliens se posent la question s'il a vraiment avec lui le monopole des armes. Et ça, on n'est pas sûr, on n'est plus sûr. Il y a des signes de rupture.
Et ce que l'on redoute aujourd'hui, c'est effectivement le bain de sang. La population ne semble pas non plus vouloir céder. Cette fois-ci, des scènes de rue filmées hier par des manifestants, notamment dans la région Amazon, montrent une foule chassant des soldats de la garde nationale bolivarienne, ce corps d'armée proche de Maduro. Et certaines casernes se sont aussi soulevées, il faut le rappeler, ces derniers jours, et ont affiché clairement leur soutien au président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido.
Alors, ce qui va faire la différence aussi, sans doute, c'est la position des États-Unis qui ont été les premiers à reconnaître le jeune opposant vénézuélien comme président par intérim. Correspondance à Washington, signé Grégory Phillips.
La reconnaissance officielle est arrivée par la voie de 2 communiqués. Un premier de la part du département d'État, un second émanant de la Maison Blanche, dans lequel Donald Trump écrit ceci. L'Assemblée nationale vénézuélienne est la seule branche légitime du gouvernement et donc je reconnais Juan Guaido comme président par intérim. Trump ajoute qu'il va continuer à utiliser tous les leviers économiques et diplomatiques des États-Unis pour faire pression sur le régime illégitime de Nicolas Maduro. Puis un peu plus tard dans l'après-midi, un reporter demande au président américain s'il envisage une action militaire. Celui-ci répond que toutes les options sont sur la table. On sait que depuis la fin des années 90 et l'arrivée de Chavez au pouvoir, les relations entre les deux pays sont exécrables. Washington a multiplié ces derniers mois les sanctions financières à l'égard du régime chaviste. Hier soir, Maduro a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis. Dans un discours, il a donné 72 heures aux diplomates américains pour quitter le pays. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Juan Guaido adoubé par Donald Trump, Olivier Pouget, d'autres pays ont emboîté le pas.
Oui, ils sont nombreux, hein, les pays qui se placent dans le sillage des États-Unis, notamment la Colombie et le Brésil, voisins du Venezuela, mais également le Canada, l'Argentine, le Paraguay. L'Union européenne réclame l'organisation de nouvelles élections dans les meilleurs délais. Nicolas Maduro est aujourd'hui sous pression et la situation à l'intérieur du pays reste extrêmement volatile.
Olivier Pouget, des premières déclarations en France sur cette situation vénézuélienne, elle est signée Jean-Luc Mélenchon, pour qui l'autoproclamation de Juan Guaido est une tentative de coup d'État. L'empressement de Trump à reconnaître celui qui s'est autoproclamé montre d'où vient le coup, dit le patron des Insoumis sur Twitter. En République démocratique du Congo, là c'est l'heure de la première alternance pacifique. Félix Tshisekedi va prêter serment aujourd'hui, après des élections toujours contestées par l'autre candidat de l'opposition, d'autant que le nouveau président s'apprêterait à gouverner avec les proches de son prédécesseur. Joseph Kabila.
L'analyse de ce sujet par Pierre Aski dans une dizaine de minutes. Il est 8h06 en France, Florence. Des gilets jaunes se lancent dans la course aux européennes.
Avec une figure de proue, l'aide-soignante normande Ingrid Levavasseur, une liste de 10 noms pour l'instant. Le ralliement d'initiatives citoyennes veut en réunir 79 d'ici mi-février. Son credo, ne plus subir les décisions de Bruxelles et le diktat de la finance et des technocrates. Un tête-à-tête inédit aujourd'hui, Macron-Wauquiez aujourd'hui à Valence. Première rencontre entre le président de la République et le chef de LR dans sa région, Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux hommes se verront avant un déjeuner-débat avec une soixantaine d'élus. Et voilà ce que Laurent Wauquiez compte dire au président.
Pourquoi est-ce qu'il a mis le feu au pays? Parce qu'il a augmenté les impôts sur les classes moyennes, sur ceux qui travaillent. Et c'est pas quelques primes gouvernementales qui répondent au sujet. Le deuxième thème dont je veux parler avec lui, c'est la place des retraités. Les retraités ont vraiment été sacrifiés dans l'approche du gouvernement. Ce thème-là, je ne l'entends plus. Et puis la dernière chose, c'est que cette crise, c'est la crise d'un pouvoir qui a été très déconnecté, qui a imposé ses mesures depuis Paris. Les 80 km/h ont été la décision emblématique de ça. J'ai un conseil à donner au président de la République, s'il veut un vrai débat, c'est aller à la rencontre des Français. C'est pas s'enfermer dans des salles où les choses sont bien huilées. Et je lui dirai.
Laurent Wauquiez au micro de France Bleu Alsace. Débat officiel et présidentiel à Valence. Il y en a d'autres tous les jours organisés localement partout en France. Et hier soir, c'est un débat chic qu'a assisté notre reporter Sébastien Sabiron. Débat dans une brasserie du 16e arrondissement parisien.
Le thème de ce soir, c'est fiscalité et dépenses publiques.
Si la brasserie Victor Hugo borde un rond-point parisien, pas de gilet jaune dans l'assistance, mais les préoccupations se rejoignent parfois.
Il faudrait réduire le nombre d'impôts pour qu'on sache réellement ce qu'on paye et pourquoi.
Créer une tranche supplémentaire pour les plus hauts revenus et aussi un impôt minimum payé par tout le monde.
Tous les sujets sont abordés dans une ambiance électrique. Exemplarité de l'État, âge de la retraite, effort fiscal réclamé aux migrants ou réduction du nombre de fonctionnaires.
On les réduit où?
Mais partout où il y a des administratifs qui ne servent à rien, il y en a partout.
Les collectivités territoriales, ils doublent les gens pour rien, des gens incompétents.
Pas de débat, en revanche, sur un éventuel retour de l'ISF. Daniel aimerait voir supprimer son successeur, l'impôt sur la fortune immobilière.
C'est une discrimination par rapport aux Parisiens qui ont un appartement, vous avez vite 1 million dans un beau quartier, plus une maison de campagne, ça y est, vous avez l'ISF. J'ai horreur de cette idée de dire les riches comme ça.
2 heures plus tard, fin du débat, avec des citoyens heureux d'avoir apporté leur pierre à l'édifice.
Les gilets jaunes sont des gens fort sympathiques, mais ils ne représentent qu'une toute petite partie de la population française. Un débat comme celui de ce soir me paraît plus ouvert.
C'est pourtant pas l'ensemble de la population française qui est représentée là.
Je vous le concède, c'est une contribution qui complète la contribution de gilets jaunes qui ont une autre vision.
4 autres débats sont annoncés à Paris d'ici la fin de la semaine.
Et ce soir, place au débat télévisé. Léa Salamé dans l'émission politique de France 2 pousse les murs à partir de 21h, malgré la confiance toujours plus basse des Français pour leurs médias au plus bas niveau cette année depuis le lancement du baromètre annuel de Kantar pour La Croix en 1987. Moins 10 points pour la télévision à 38% de confiance. La radio s'en sort un peu mieux avec 50%, mais là aussi, la confiance baisse.
Il est 8h10 quand Renault tourne la page Carlos Ghosn.
Dans sa prison de Tokyo, réseau Ghosn n'a plus désormais aucun mandat de PDG. Il vient de démissionner alors que le conseil d'administration du groupe devrait désigner tout à l'heure ses successeurs, Thierry Bolloré qui assure l'intérim chez Renault et Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin. Carlos Ghosn, pilier déchu du patronat mondial, au micro de Delphine Simon, parole de patron, parole de ceux qui ne le côtoieront plus au forum de Davos.
Depuis 15 ans, pas un Davos sans Carlos Ghosn. On le croisait dans les allées du Forum économique. C'était l'un des rares patrons français assidus. Membre du conseil de la Fondation, il va laisser une place vide pour Khalil Abdullah Janahi. 21 ans que ce PDG émirati vient à Davos.
Il nous manque. Ça a été un choc pour tout le monde. C'est l'une de mes meilleures relations ici à Davos. En fait, nous avons monté ensemble une organisation à but non lucratif. C'est triste. Mais le connaissant, il va se défendre jusqu'au bout.
En tout cas, certains s'interrogent sur le risque d'investir au Japon, comme cet homme d'affaires de Dubaï, Julien Awari.
Pour quelqu'un qui est mis en examen, qui depuis bientôt 2 mois est en prison, sans avoir la liberté de pouvoir répondre à l'ensemble des accusations qui sont portées contre lui, c'est pas forcément un super signe.
Pour le PDG américain Patrick Conway, le verdict est sans appel.
Le plus important, c'est d'être intègre quand on fait du business. J'ai travaillé au gouvernement fédéral américain 2 fois en 10 ans et je dirige une entreprise. Je trouve que le plus important est l'intégrité et l'honnêteté, à la fois dans le public et le secteur privé.
Cette année, c'est le directeur général Thierry Bolloré qui conduisait la délégation de Renault à Davos. Delphine Simon, France Inter.
Des dérapages financiers et des soupçons de favoritisme, le parquet national financier a ouvert une enquête sur le chantier pharaonique du super métro du Grand Paris Express après un rapport accablant de la Cour des comptes. Le projet qui devait coûter 19 milliards d'euros au départ est désormais évalué à plus de 38 milliards. Grève dans les collèges et les lycées aujourd'hui à l'appel des principaux syndicats du secteur. Ils protestent avec les syndicats lycéens contre les suppressions de postes pour la rentrée prochaine, la réforme du lycée et Parcoursup entre autres. Le poids des mots d'une violence inouïe contre la patronne de la FNSEA, Christiane Lambert, porte plainte contre des menaces proférées à son encontre par un collectif anti-élevage sur Internet, des véganes de l'extrême, comme on pourrait les qualifier, Manuel Ruffez.
Ne cherchez pas, les publications ont disparu, la justice est passée par là. On y voyait entre autres un portrait entouré d'une cible dans un article intitulé « Balance les eaux criminels ». Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.
On n'est pas habitué en tant que syndicaliste agricole à recevoir des menaces de mort, ni de se faire traiter de zoocriminels. Ces menaces, je ne les ai pas supportées, j'ai donc porté plainte pour faire fermer le site de cette association Boucherie Abolition, qui a vraiment dépassé les limites en parlant de zoolocauste, comparant outrageusement l'élevage à l'holocauste.
Et voilà comment ce collectif anti-élevage présente Christiane Lambert, éleveuse de porcs.
Christiane, donc Lambert, donc une esclavagiste dont les crimes consistent à faire naître pour persécuter, torturer, puis assassiner des cochons.
Et plus loin, elle est accusée de violer et séquestrer les femelles, de fracasser le crâne des bébés ou d'engraisser les plus robustes afin de mieux pouvoir les assassiner. Christiane Lambert.
J'ai pris des mesures de protection dans notre exploitation. Il y a beaucoup d'hystérie dans les propos de ces responsables. Tant qu'ils continueront, nous continuerons par les voies juridiques.
Le collectif, obligé de retirer ses publications, n'a pas hésité à parler de censure.
Manuel Ruffez, les futures mamans pas égales face à l'accouchement. 167 000 Françaises vivent dans un désert obstétrique, selon les statistiques officielles de la DRES, dans une commune sous-dotée en sages-femmes et située à au moins 45 minutes de la maternité la plus proche. Il neige en Corse, aujourd'hui placé en alerte par Météo France jusqu'à midi. Les établissements scolaires situés au-dessus de 400 mètres d'altitude resteront fermés. Inquiétude, stupeur, tremblement pour le PSG après l'entorse de Marco Verratti. Neymar s'est blessé au pied droit, figurez-vous, hier soir en remportant son match de Coupe de France 2-0 face à Strasbourg. Est-ce qui fait trembler au PSG, c'est que tout ça se produit à moins de 3 semaines du choc de la Ligue des Champions à Manchester United. On termine à l'Open d'Australie où une finale dames opposera la Tchèque Petra Kvitova à la Japonaise Naomi Osaka. Toutes les deux se sont qualifiées cette nuit alors qu'à 9h30, la première demi-finale homme opposera le prodige grec Stefanos Tsitsipas au roi Nadal. Tsitsipas qu'on a découvert le week-end dernier quand il a battu Roger Federer, un jeune joueur au profil singulier, Fabrice Abgral.
Avant son exploit face à Roger Federer, Stefano Tsitsipas n'était connu que des initiés ou des passionnés. Dimanche, il n'a fait que confirmer tous les espoirs placés en lui depuis 2017. Avec ses cheveux longs et son look de surfeur, Tsitsipas, né il y a 20 ans à Athènes, est un joueur au talent phénoménal, mais le garçon n'est pas forcément très apprécié. Certains le trouvent hautain, d'autres arrogant ou condescendant. Tsitsipas a surtout l'étoffe d'un champion déterminé, au caractère bien trempé. Mais Tsitsipas n'est pas très expansif en dehors du court. Il est même plutôt distant. Patrick Mouratoglou a eu le temps de cerner sa personnalité. C'est lui qui, il y a 4 ans, l'a fait venir dans son académie de tennis.
Il se lie pas facilement dès le premier contact avec les gens. Je dirais pas qu'il est timide, je dirais qu'il est réservé.
Et c'est pour cette raison que Stefano Tsitsipas se démarque des autres joueurs.
Il est différent. Très souvent dans son coin ou avec son équipe, il n'est pas forcément copain avec tout le monde. Non pas parce qu'il aime pas les gens, mais parce qu'il vit beaucoup dans son monde intérieur. Il a un blog, il a un compte sur Instagram et sur Facebook. Il a un podcast. Il est différent dans le sens où il a un monde intérieur qui est riche, contrairement à plein d'autres joueurs qui sont entre eux et qui rigolent toute la journée, ce qui est très bien aussi, hein, mais il est différent.
Melbourne, Fabrice Abgral, France Inter.
Voilà, vous avez retenu un Instagram, Facebook, c'est le monde intérieur aujourd'hui. Demain, le choc, toujours comme disent les journalistes sportifs. Pouille, Djokovic, ce sera l'autre demi-finale de ces Open d'Australie.
Merci Florence Paracuelos.